à voix nue. Cette semaine, Leïla Djitli rencontre Jean-Paul Gaultier. Ce soir, de la marinière à la jupe pour homme et vice-versa. Gueule cassée, ne pas s'abstenir.
Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Donc, bonsoir. Quatrième épisode de cette épopée, de votre aventure incroyable, parce que avec vous, on est reparti du côté d'Arcueil, et puis on arrive chez Gardin, et puis à toute cette époque, donc c'est un peu avant le premier défilé, un peu avant 76, qui est votre premier défilé.
Voilà.
Vous êtes en train de travailler
aux Philippines.
Aux Philippines. Et là, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous gagnez votre vie à être employé comme ça dans des maisons.
Voilà. Et donc là, c'était pour Cardin aux Philippines. Mmh. Et après, je rentre. Et puis, comme ça s'était plutôt mal passé avec les personnes, les licenciés de Cardin, pas avec la maison Cardin, mais avec les licenciés, je décide de rentrer pour voir les défilés aux coutures. C'est-à-dire que j'avais un contrat d'un an. En vérité, je suis parti au bout de 6 mois. J'avais fait le défilé. Et puis, en fin de compte, comme ils ont essayé de me retenir, ils ont eu peur que je ne revienne pas après les défilés des coutures, que je ne revienne pas là-bas. Donc, du coup, ils m'ont empêché de partir. Du coup, j'ai fait demander à mes parents qui m'envoient un télégramme comme quoi il y avait un enterrement dans la famille et tout. Ma pauvre grand-mère que je faisais mourir alors qu'elle n'était pas encore morte. Donc, le télégramme est reçu, tout va bien, donc je peux partir et tout. Alors donc, je rentre à Paris, et là, et tout, c'était un jour, c'était au mois de septembre, donc je rentre en... Je pense que pour la couture, c'était en juillet. Donc, au mois d'août, fin août, j'étais avec un copain de classe d'avant, qui lui était en fac, puisque moi j'avais commencé à travailler et que j'avais fait toutes ces maisons. Donc lui, il était à la fac. Et qui s'appelle Jean-Paul, en vérité, après il s'est fait appeler Donald Potard, donc Jean-Paul Potard. Et on se baladait et tout, parce qu'il allait chercher des bouquins pour la fac, etc. Et j'étais là, et là je croise un copain à lui et qui était Francis Menuge. Et j'ai vu ce garçon formidable, très beau, sympathique comme tout, assez extraordinaire, très brillant comme ça tout de suite. Ça a été un coup de foudre. J'ai dit à Donald, oh, c'est dommage qu'il soit pas homosexuel, ton copain, dis donc, parce que vraiment, qu'est-ce que je l'aime beaucoup, il est vraiment formidable. Eh ben, figure-toi qu'il veut te voir, me dit-il. Ah bon? Oui, parce que je crois qu'il a changé pendant les vacances, il a changé d'orbite, c'est le moment de le dire. Et du coup, bon. Et donc, je l'ai vu, et puis voilà, ça s'est fait, et ça a été une passion, et vraiment mon grand amour, on va dire. Si vous voulez, c'est lui qui m'a, en fin de compte, poussé à faire ma propre marque. C'est-à-dire que d'abord, je lui ai montré ce que je faisais. Ça, c'était peut-être parce que j'étais pas sûr qu'il tombe vraiment amoureux de moi. Alors, il n'avait pas d'argent comme moi, hein. Ses parents non plus, mes parents non plus, donc rien du tout de ce côté-là. Mais on a fait avec rien, et on l'a fait à deux. Et ça, c'est extraordinaire parce que, ben voilà, à un moment... Alors, il a vendu un petit peu certains de mes croquis, il allait dans le sentier, il vendait des dessins que j'avais faits. Et puis moi, j'avais quelques... pas licence, mais disons quelques maisons avec lesquelles je travaillais, donc j'étais un peu freelance, quoi. Mmh. Et puis à un moment, on s'est dit, ben on voyait qu'en plus c'était dans les, ce que je faisais allait bien avec l'époque, le moment, etc. Et donc à un moment, on a dit, ben on va faire une collection, parce qu'on a vu que j'avais eu une même idée qu'un autre créateur, mais moi je l'avais eu avant, mais le créateur l'avait pas vu et tout. Donc je me suis dit, bon, c'est le moment de montrer et tout que mes idées, elles sont vraiment dans l'air du temps. Allons-y.
Enfin, dans l'air du temps, on est en 76 et c'était quand même l'époque un peu hippie, alors que vous n'étiez pas
Ah non, c'était plus du tout hippie, là. Ah là, oui. En 76, alors là, était hippie ce qui était ringard. En 76, non, on était en plein le punk. Le punk, justement, et Londres, et le punk, et tout le mouvement punk. Donc, si vous voulez, moi, évidemment, tout de suite, le mouvement punk, qui était un mouvement social, comme tous les grands mouvements et qui font des révolutions. Alors là, au moins, là, le beige avec l'or qui est tellement beau et que le noir, c'est tellement mauvais. Bravo, là, c'est à fond noir et tout, etc. C'était la rébellion à fond. Et dans ma mode, justement, j'ai essayé de montrer tout de suite, plutôt que d'aller, justement, en n'ayant pas de moyens en plus. Alors, pourquoi essayer de faire des beaux vêtements riches? Pourquoi essayer de faire ça? J'ai pas les moyens de les faire. Eh ben, faisons ce que je peux faire. Pourquoi faire des défilés dans des endroits où on va payer une fortune, etc. et tout? J'ai pas les moyens, c'est pas la peine. On va trouver des cafés-théâtres, des endroits petits et tout. Le premier endroit où j'ai fait le défilé, ça a été le Palais de la Découverte. Alors, vous allez me dire, oui, ça, mais c'est carrément un musée, un monument et tout. Oui, mais il était pas cher du tout, il coûtait rien du tout, parce que c'était au Planétarium. C'était pas un endroit, et à l'époque, les gens ne faisaient pas du tout dans des endroits comme ça. Donc, on l'a loué pour une après-midi et tout. Et puis voilà, c'est là que j'ai fait mon premier défilé avec comment Anna qui avant elle étant chez Saint-Laurent et tout,
ben elle m'a fait venir. Donc cette fameuse Anna, donc que vous aviez rencontrée.
Évidemment, elle m'a fait venir des autres mannequins de chez Saint-Laurent Parce que voilà, parce que elle leur a dit j'ai un copain et tout, allez venez gratos et tout, etc. Vous aurez un vêtement à la fin. Les pauvres, elles ont été payées par le vêtement, ce qui n'était pas vraiment quelque chose de terrible à l'époque, parce que mes vêtements n'étaient quand même pas vraiment géniaux. Les vêtements qu'elles ont eu, dans c'est vrai, c'était un profond ratage. Mais ça fait rien.
Pourquoi racontez-moi ce premier défilé,
parce que vous parce que c'est passé une catastrophe. C'est-à-dire que c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire que pour tout vous dire, d'une part, le choix de l'heure du défilé, c'était la semaine de la mode en effet, ouais. Mais c'était exactement à la même heure qu'Emmanuel Kahn, qui était la grande chouchoute du Marie Claire, qui était le grand magazine à l'époque. Donc moi, j'ai eu toutes celles qui pouvaient pas rentrer chez Emmanuel Kahn, c'est-à-dire en général des gens qui étaient quelquefois au bord de la retraite, les pauvres, ou qui étaient vraiment les refusés, parce que voilà. Et les acheteurs, vous parlez, il y avait aucun acheteur, parce que les acheteurs ne viennent que quand ils ont entendu parler de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Donc c'était quelques personnes de ma famille, il y avait pas grand monde. Le défilé a commencé, d'un seul coup Francis avait lancé la musique et moi j'avais pas habillé les mannequins encore, et puis il y en avait une que j'arrivais plus à habiller parce que c'était une espèce de vêtement, c'était 80s en plus, alors elle avait demandé à ses sœurs de nous aider pour l'habillage, et c'était enfiler un vêtement, c'est-à-dire que c'était, le vêtement était un rectangle avec au bout de chaque côté, donc un long rectangle en lycra avec comme une coulisse et un anneau de chaque côté, et on enfilait par la jambe un des anneaux, le tournait sur le corps et le reprenait avec le bras de l'autre côté. Ce qui faisait une espèce de tornade qui cachait à la fois le sexe et la poitrine par cette espèce de lycra comme ça. Mais dans l'énervement et tout, je ne savais plus comment le mettre. Donc j'ai dit débrouille-toi toi-même, mets-le toi-même à Itis, qui a réussi à le mettre quand même et tout. Il faut dire aussi que pour fabriquer les vêtements, c'était qui ? Ben, il y avait un peu de ma cousine, ma concierge, la concierge, une amie à ma grand-mère. Voilà, ça a eu lieu comme ça. Mais je dois dire que ça y est, on avait voulu se lancer et tout, et on s'est lancé. Et comme on s'était lancé, on avait plongé, et bien après, on a essayé de nager dedans. Ça a été accueilli d'une façon presque rien, rien par rapport au défilé, par la presse française. La presse anglaise, par contre, en a parlé. Et la presse japonaise, ça a été les deux qui ont été les premiers à en parler comme des défilés d'un nouveau qui avait fait des choses à sa façon. Alors qu'est-ce que j'avais fait dans ce premier défilé quand même ? La seule chose qui était pas mal et que je retiens, j'avais mis une espèce d'énorme tutu genre danseuse, mais que j'avais fait avec des découpes, avec des poches genre façon jean. J'avais fait, mais tout était en tulle, hein. J'avais fait comme des 5 poches jean avec les coutures sur piqûres et tout, etc. Plus un perfecto sur lequel Francis avait mis dans le dos et sur les épaules, des diodes luminescentes qui clignotaient comme ça quand la fille a... Ça, c'était un côté Claude François avec son costume de lumière et tout. Enfin bon, c'était une espèce de truc mélange de rock, donc le perfecto qui était quelque chose qui était plutôt pour les mauvais garçons, les blousons noirs, etc. et tout, mais un vrai blouson noir qu'on avait donc changé. Et puis, j'avais quand même un soutien-gorge que j'avais acheté à la Samaritaine, qui était en satin noir et que j'avais mis des clous. Je l'avais fait un peu plus rock comme ça. Tout ça, c'était très influencé par la scène rock de Londres et tout. Alors j'avais quelques créations quand même faites avec des sets de table en paille que j'avais découpées, j'avais fait des découpes sur le ventre avec une jupe en jersey après qui pendait à partir de ces sets de table et un boléro comme ça. Chaque set de table de chaque côté faisait un rond, ça faisait au total un rond, et donc la moitié du rond qui était relié par le jersey de la jupe. Enfin ça. Et puis j'avais trouvé aussi à la Samaritaine des travaux au canevas qui étaient faits au canevas, mais inachevé. Donc ça veut dire qu'on avait toute la trame de...
Quoi, de tapisserie
de tapisserie, donc c'est-à-dire c'est une espèce de tulle très raide avec des jours qui étaient vides, ouais. Avec quelque chose d'imprimé dessus, plus une partie qui était déjà brodée. D'accord. Et moi j'ai utilisé le total pour des dos de boléro, pour des devants de boléro, avec ce mélange de broderie, pas fini, etc. et tout. Donc l'inachevé un petit peu. Voilà.
Mais la presse, donc, vous dites la presse anglaise.
Ben après, la française est venue un peu mal. C'est pas qu'elle est venue, c'est que là elle n'était pas venue. Donc Francis est allé les voir en patin à roulettes parce qu'il avait des patins à roulettes, lui. Ouais. Donc, alors, il est allé les voir et leur présenter
les
vêtements. Et du coup, on a eu quand même, par rapport à mes bijoux lumineux, par rapport à comment, des photos de la photo qui avait été faite avec mes boléros, il y a eu des photos un peu, des photos du défilé. Et j'ai eu donc quelques articles qui sont parus, pas des articles, mais quelques petites photos, mais c'était plutôt dans les quotidiens et dans les choses comme ça. Les magazines de mode, c'est venu après avec un accessoire, un machin, une chose comme ça, et après de plus en plus.
Je sais qu'il y a une histoire qui m'a beaucoup fait rire, d'une journaliste qui n'avait pas compris votre travail, et à laquelle vous avez envoyé un petit colis assez particulier.
Ah, mais ça, c'était beaucoup plus tard.
C'est plus tard, ça. C'est pas ce premier.
Ah, c'est beaucoup plus d'accord. tard. Ah non, là, j'étais reconnu. Entre guillemets,
ah,
j'étais
oui.
reconnu. C'est
d'accord.
au contraire, c'était un moment où j'avais du succès.
D'accord.
Comment je commençais
d'accord.
à avoir du succès
ah,
en France et tout.
Pas... D'accord. Okay,
mais je peux
d'accord.
le raconter quand même l'histoire.
Oui, oui. Parce
voilà.
Que...
C'était bon. Ça doit être quand même dans les années 80. Hein. Ça doit être peut-être même, attendez, 82, 83 et tout. Donc on parlait vraiment pas mal de moi et tout. Et pour Noël, il y avait cette tradition d'offrir aux journalistes. C'était, il y avait les grandes maisons offraient du champagne, des trucs comme ça et tout. Alors je me suis dit, bah tiens, puisque d'habitude pour Noël, comment on mange dans la tradition, il y a la bûche de Noël en effet, mais pas cette fois-ci. Mais il y a la dinde, et ben on va offrir des dindes. On avait envoyé donc à toute la presse, c'est-à-dire à toute la presse qu'on aimait bien en plus, celle qu'on aimait bien. On avait envoyé comment une vraie dinde quoi. Mais et moi, mais parce que je trouvais non. ça drôle, plutôt vivante. Bah, c'est ça, une dinde vivante. Alors je trouvais ça plus drôle. Ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte la veille quand même de l'envoi à quel point, par contre, c'était une idée très étrange. Parce que pour dire la vérité, je n'avais jamais vu en vrai une vraie dinde. Donc du coup, je ne les ai vues que mortes ou dans mon assiette, vous voyez. Donc là, ce que j'ai vu, quand j'ai vu toutes ces dindes, parce qu'il y en avait à peu près 7 ou 8 hein, qu'on avait prévues, dans le studio, là où on dessinait, le bruit, mais même ça me faisait peur, quoi. Elles étaient vraiment énormes et tout, énormes, en plus des belles dindes, énormes et tout. Et là, c'était donc, on avait, mon idée, c'était de penser à les faire, comment, qu'elles-mêmes les fassent tuer, quoi, pour après, il y en a qui les ont mis à la société protectrice des animaux, quoi, qui les ont donné et tout. Mais tout le monde s'est trouvé fort embarrassé. Alors, il y en a qui l'ont bien pris. Je crois que Libération avait fait un papier là-dessus et tout. Mais c'était pas par misogynie ou par un truc comme ça que vous êtes des dindes et tout. C'était pas du tout ça. C'était vraiment comme quelque chose de tout à fait naïf, du genre, eh ben voilà, vous l'avez en vrai. Haha, personne ne vous l'a fait auparavant, ça. Vous voyez plutôt cet esprit comme ça, un petit peu, un peu débile quoi, il faut reconnaître. Enfin voilà. Et donc l'ironie, bah ceux qui sont par contre qui se sont pris pour ils nous prennent pour des dindes, en vérité, je crois que c'était celle peut-être qu'il était peut-être un tout petit peu.
Oui. Moi je pensais que c'était juste celle qui voilà.
Non, parce qu'il y en a qui étaient simplement un peu en s'en débarrasser, c'est ça, ça c'était un petit peu la seule histoire, sinon elle m'a fait au contraire, il y en a qui ont beaucoup ri, ils se sont dit ça nous étonne pas, c'est bien lui. Après tout, on m'appelait bien l'enfant terrible de la mode. Non, alors il fallait bien que je me manifeste d'une façon ou d'une autre.
Absolument.
C'est peut-être à cause de ça. D'ailleurs, absolument. Que j'ai pris ce nom-là, je ne sais pas. Non, ouais. C'est par rapport aux vêtements.
Mais... C'est par rapport aux vêtements.
Je pense. Je me souviens plus du tout qui est-ce qui a lancé ça la première fois.
Mais j'aimerais bien que vous nous parliez vous-même de justement de votre style, le style Gaultier. C'est quoi ? Parce que on lit plein de choses. Hein. J'ai un mélange de gouaille, de chic, des défilés qui sont décrits comme des cortèges expiègles où se mêlent des Madame Rosa en peignoir et des petits marquis disco. Le style Gaultier, une corsetterie rembourg, les soutiens-gorge mais les dessous et vice versa. C'est quoi le style Gaultier ? Comment vous pourriez le définir ?
Ben, je dirais que c'est assez difficile à définir dans le sens où après, bon, ça s'est un petit peu radicalisé dans le sens où on le rétrécit, alors que c'est l'inverse du rétrécissement, justement, ce qu'on va dire mon style. C'est-à-dire que on met la marinière et le corset, mais en vérité, c'est en fin de compte travailler sur la tradition et la chambouler. C'est plutôt ça. Et puis c'est en fin de compte montrer la beauté là où on ne pense pas où elle est. C'est plutôt ça à la base, je vais dire. C'est pour ça que j'ai fait, par exemple, les boîtes de conserve, vous savez, en bracelet. C'est venu du fait que j'ouvrais une fois une boîte de conserve pour de viande pour mon chat. Et puis, j'ai décapsulé là avec l'ouvre-boîte. Le rond était rigolo. Je me suis dit, tiens, ça ferait comme des boucles d'oreilles. Et puis après, j'ai vu la boîte elle-même. Et je me suis dit, mais on dirait un bracelet africain. Donc voilà, je me suis dit, ben, je vais en faire des bracelets africains. Je vais le tremper dans de l'argent ou dans du chrome et ça sera des bracelets. Les gratounettes là, qui étaient métalliques et tout. J'ai fait des colliers comme ça, ça c'était dans cette collection-là. J'ai pris, vous savez, à l'époque, il y avait des cendriers qui étaient sur pied. Et ben moi, j'ai changé le récipient, j'ai mis une bandoulière et j'ai fait un fond en cuir pour que ça devienne un sac, mais qui s'ouvrirait de cette façon-là. En appuyant sur
très utile aujourd'hui, hein, vous pourriez...
Voilà.
pourriez remettre ça au goût du jour parce que vraiment, je crois qu'il y a une absolue nécessité en ce moment. Mais,
donc, si vous voulez, c'est des choses qui, à l'œil, si vous voulez, je ne crois pas qu'il y a une seule forme de beauté. Comme justement, je l'ai vu, mais ça, c'était un peu en réaction, un peu comme les punks, quoi, qui étaient en réaction contre l'establishment, aussi bien social que, oui, totalement social, puis les Français qui font suer avec il faut absolument être chic. Et qu'est-ce que ça veut dire chic? Vous voyez tout cette espèce de côté dans la mode avec des critères, des codes très précis. Ça c'est démodé, c'est in, c'est out. Plein de choses que je...
Que vous vouliez bousculer en fait.
Oui, parce oui. Que du et coup, montrer qu'en fin de compte, ça peut être beau. Si on le regarde autrement, ouais. Comme par exemple les mannequins, j'ai fait les corsets et tout, c'est grâce à ma grand-mère, mais c'est grâce aussi à des filles. C'est-à-dire que je suis allé aussi quand même quelques fois, j'ai rencontré des personnes qui allaient au palace, et notamment Edwige, la reine des punks, Farida Kelfa avec toute sa troupe, avec Frédéric Lorca, qui étaient des filles de l'époque, qui étaient pour moi mieux que les mannequins, parce que les mannequins avaient une façon de toucher la fourrure pour faire une chose sensuelle, etc., que je trouvais complètement révoltant presque, et qui montrait un certain type de femme que je voulais pas montrer, justement la femme objet. Je ne voulais pas montrer ça. Mais ces filles-là, qui n'étaient pas des femmes objets, elles portaient à nouveau des soutiens-gorge, alors que leur mère les avait brûlées. Et elles étaient d'une nouvelle génération qui justement disait « Eh ben oui, je m'habillerai d'une façon sexy, mais c'est moi qui le décide et c'est pour moi, pour me faire plaisir à moi et à mes copines. » Voilà. Et donc j'ai été inspiré par ces filles-là, c'est-à-dire que je faisais pas une copie, mais voir leurs envies et tout ça, ça me montrait et j'adhérais avec ça, parce que je trouvais en effet qu'il y avait une grande injustice, si vous voulez, par rapport... le vêtement, même au travers le vêtement, on voit l'injustice entre les hommes et les femmes. Par exemple, les vestes d'hommes qui ont une poche d'un certain côté, et du coup, on ferme les vestes de ce côté-là pour pouvoir mettre la main dans la poche de portefeuille, du portefeuille, pour l'enlever et pour payer. Alors que les femmes n'en ont pas, même dans des vestes masculines, vous voyez, on ne fait pas ça. Toutes ces choses, c'est pour ça que j'ai changé les sens pour hommes et j'ai changé pour femmes, pour que les femmes aussi, elles, eh ben, nous aussi, on peut payer, on est capable, et nous. Et j'avais comme exemple des mannequins aussi qui étaient fortes. Des filles qui étaient fortes, pas du tout. Sois belle et tais-toi, comme j'avais entendu pendant, parce que chez ma grand-mère, en entendant la télé et tout, j'entendais des interviews, j'entendais de Brigitte Bardot, j'entendais des choses comme ça, et j'entendais des réflexions, et comme quoi la femme était un objet, considère comme une femme, elle peut être belle. J'entendais, par exemple, que comment il y avait eu une photo d'un homme nu, alors que c'était l'époque, il était même pas nu. Il y avait eu cette époque, vous savez, où il y avait les publicités, avec cette fois-ci je monte le haut, demain je montre le bas. Bon, qui faisait scandale, qui avait rien de scandaleux et tout, autant c'était un excellent slogan, etc. Mais par contre, quand un homme, lui, après, a été photographié, en noir et blanc pour éminence, avec un slip montré comme ça, ça a été, c'est un PD, évidemment, et c'est un grec, c'est un PD. En plus, le cliché absolument ridicule et tout, n'importe quoi. Et du coup, tout ça, je trouvais ça scandaleux, quoi, d'avoir des a priori comme ça et tout. Et parce qu'il fallait, pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas se montrer. Lui, c'est pas. Alors c'est pour ça que j'ai montré après, par la suite, j'ai fait l'homme objet. Donc c'est ça, c'est pour montrer en effet, puisqu'il y a la femme objet, eh ben il y a l'homme objet. Et le jour où les mannequins hommes seront payés plus que la femme, parce que ce n'est toujours pas le cas, eh ben là, on arrivera peut-être à un équilibre pour qu'ils redeviennent payés pareil. Et là, ça voudra dire que tout le monde est égaux.
Mais c'est curieux parce qu'on sent, il y a deux choses là. Il y a en même temps toutes les années 80 où on sent que c'était vraiment très très fort, parce que je pense qu'il y a une période d'une grande ouverture. Je ne sais pas comment vous vivez aujourd'hui la différence d'ouverture entre les années 80 où tout était possible, où vous nous racontez les années palace où tout le monde pouvait rentrer au bain ou au palace. C'était pas du tout un lieu de l'élite.
Il n'y avait pas de ségrégation sociale. Voilà.
Où on pouvait rencontrer les gens les plus marrants.
Par contre, en Angleterre, ça a toujours été comme ça. Ouais. Les Anglais, ça je dois dire, même dans les clubs et tout, c'était comme ça, il y avait déjà le mélange. Mm-hmm. Mais le palace, Fabrice Aymer a été celui qui, en effet, a fait... Alors, toutes ces filles de palace, toute cette génération palace, on va dire, eh ben ça m'a énormément influencé, parce que c'était ces libertés-là qui avaient lieu là-bas.
Je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est un peu refermé, ça.
Refermé, alors c'est drôle à la fois, parce qu'il y a une évolution, en effet, il y a des retours en arrière, comme par exemple la loi pour l'avortement, etc., et les Américains qui refont des histoires, il y a une espèce de puritanisme qui est très fort et tout. C'est pour ça que cette fois-ci, dans ma collection, j'ai mis... Alors, c'est quand même le pompon, moi qui adore le corset, le soutien-gorge, et ben là j'ai montré les seins avec cette espèce de bouclier bustier plastique transparent où j'ai marqué le téton libre ou nipple free. Donc c'est un retour. Donc moi j'en arrive même à maintenant mettre le soutien-gorge en ceinture et le sein à l'air.
Mais quand même pour ce milieu de la mode là où vous avez vous-même chamboulé les codes, mais c'est quand même un monde très codifié, c'est-à-dire que socialement...
Ah ben maintenant ce monde, en plus ce monde maintenant est régi par le marketing. C'est-à-dire l'inverse de la liberté que j'ai connue. Maintenant, on ne vend plus. Alors, dans ce monde de la mode, on ne vend plus des vêtements, on vend une image. Mais l'image, par contre, il faut qu'elle soit politiquement très correct.
Très correct. Donc en fait, on peut faire de la politique à travers des collections, de la mode et les messages qu'on fait passer.
Même sans le vouloir, parce que moi, mon but n'a jamais été, parce que j'ai jamais été quelqu'un de vraiment politisé. Je veux dire, il y a des injustices que je trouve, mais je me dirais, je ne mettrais même pas un titre ni un ordre de droite, de gauche, de centre. Disons que ça irait plus vers le centre, puisque je suis contre les extrêmes de toute façon. Alors ça, par contre, ma position est anti-extrémiste de n'importe quelle nature qu'il soit. Mais donc pour une espèce de mélange des deux, au contraire. Moi, je suis pour l'union des deux. C'est ça, pour arriver à un milieu comme ça, qui est un métissage, quoi. Je suis, en fin de compte, c'est ça, à la base de mon style, quoi, peut-être même. Je dirais peut-être ça, les vêtements, une espèce de métissage, justement, comme de deux extrêmes, mais qui arrive à faire quelque chose de bien balancé.
Moi, ça m'intéresse. J'ai envie quand même de comprendre ce qui chez vous a fait que tout ce qui était injustice, tout ce qui était raciste, tout ce qui était... tordez le cou à l'ordre établi, vous touche. Pourquoi ça vous touche?
Pourquoi ça me touche? Parce que j'ai pas connu ça et j'ai vu ça. Ça me touche, je vous l'ai dit depuis le départ, comme le Père Noël qui n'existe pas. Voilà, parce qu'on raconte des mensonges et tout. Alors quand je sens qu'il y a une injustice, que l'injustice est une forme de mensonge, non? Eh bien, je dis que là, ça me choque et ça me... Oui, c'est comme si...
Non, parce que je dis ça parce que c'est quelque chose qui vous rend aussi extrêmement sympathique et vous êtes aussi populaire grâce à ça, parce que vous traversez tous les milieux. On vous voit à la télé présenter l'Eurovision.
Parce que j'aime les choses différentes.
Vous voyez, on vous voit vous être en amour avec Madonna, mais aussi avec Yvette Horner, qui
fait.
A disparu il n'y a pas longtemps.
Vous
voyez, ça, c'est quelque chose chez vous qui est très fort, qui est très important et qui vous rend vraiment sympathique.
Mais qui est simplement sincère. Comme je vous ai dit, je revendique mon éclectisme déjà, et en plus comment le fait d'être sincère, quoi, que j'ai décidé de ne pas mentir. Donc c'est vrai que j'aime Yvette Horner, que j'aimais Yvette Horner, que je l'aime toujours d'ailleurs, même si elle n'est plus là, et que c'est quelqu'un, un personnage de franc, d'honnête aussi et de sincère. C'est ça, en fin de compte, c'est la sincérité qui me touche, et que je peux aimer aussi Madonna, qui n'a rien à voir, mais qui pourtant a plein de choses en commun et que j'adore et tout avec moi. C'est son travail par rapport à la femme et aux droits des femmes. L'air de rien, quand même, elle n'a pas peur et elle continue toujours, même là où elle pourrait se calmer et se dire maintenant ça y est, allez, je peux avoir une retraite heureuse et tout. Non, elle continue quand même à militer dans un sens, d'accord, c'est en même temps une vraie femme d'affaires, on va dire que c'est la Cardin du show business, elle fait tout à la fois chanteuse et tout, mais en même temps, elle dit des choses au travers de ça, son combat quand même par rapport au vieillissement et tout, je trouve que c'est... Alors, je ne sais pas si elle s'y prend bien, ça c'est une autre histoire, même s'il y a aussi du business dedans, mais il y a quand même une réelle sincérité, parce que quand même, elle s'exhibe à des colibelles les plus durs et elle veut quand même... voilà. Donc, je l'admire. Mais je veux dire, ça peut être plein de choses différentes. Moi, j'aime bien les contrastes, déjà. J'aime bien les tout blancs avec le cheveu platine et les tout noirs avec les cheveux très noirs ou roux, justement, parce que là, c'est une anomalie et c'est ça qui m'intéresse aussi. Oui, des albinos noirs, je dis des extrêmes là un peu choquantes, mais en vérité... ce que j'aime, c'est justement la diversité et la beauté. En voyageant, ce métier en plus m'a permis... Alors, c'est un métier peut-être, en effet, qui est fait de tas de codes et de tabous et de choses, en vérité, démodées et haïr ce qu'on a aimé avant, ce qui est quelque chose d'épouvantable. Moi, je trouve pas qu'on puisse haïr ce qu'on a aimé avant. Il faut garder toujours un peu en soi. Enfin, ça, c'est mon opinion. Mais en même temps, ce métier-là m'a permis de voyager, de voir des choses, de voir d'autres cultures, de voir des gens, d'avoir des contacts avec des personnes qui avaient des idéaux et qui étaient plus très créatifs, de collaborer avec eux. Et ça m'a enrichi totalement. Enrichi d'une façon... spirituelle et connaissance. C'est pas du niveau fric. Et puis, en fin de compte, ça m'a jamais intéressé de faire du fric, je veux dire. J'ai jamais su faire du fric. Ça, Francis, peut-être lui, était beaucoup plus doué que moi pour ça. Mais disons, ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer, de faire des choses que j'aime et d'être toujours aimé et d'aimer toujours et d'avoir toujours des coups de foudre. Et c'est vrai que la mode m'a permis de ça, de collaborer justement avec des gens semblables, avec des gens du cinéma, avec des... Voilà.
Oui, parce que vous avez rencontré des gens tellement différents.
Oui.
Je sais pas, on a cité Yvette Horner, mais Sheila à ses débuts. Vous
oui, Sheila, voilà, et j'ai refait son look et tout. Elle sortait de l'aérobic et tout, et j'étais ravi de la transformer. Oui, de la faire. Elle dit maintenant que c'était le look que j'ai fait par la suite pour Madonna. Disons que c'était plutôt mon look que je faisais moi, c'est-à-dire le cheveu comme défrisé, comme une nuit après l'amour, et disons un trench qui montraient les épaules et on voyait un soutien-gorge qui apparaissait, un sous-vêtement qui apparaissait. Donc c'est un petit peu ça, un côté plus féminin et plus sensuel, justement.
Mais Lady Gaga aussi, au départ, elle vous intéressait pas, vous disiez que...
Non, parce que je trouvais vraiment... que c'était du sous Madonna. Alors que Madonna, je dois reconnaître une chose, Madonna à la base, elle était peut-être différente, mais elle était très stylée, avec un sens de la mode, et elle était un peu dans l'esprit, justement, un esprit du palace, ou un esprit de la mode qui était la mode des années fin 70, début 80. On voit qu'elle était dans l'univers underground, aussi bien de New York, qui était un peu le reflet de celui de Paris. Et c'était formidable, et ça a été une collaboration extraordinaire, parce que justement, on se comprend sur plein de choses. Et j'étais ravi, d'ailleurs, de cette année, de lui refaire quelque chose, et tout. Pour moi, c'était très émouvant, j'étais très content, comme faire une petite boucle comme ça
bien
aussi
sûr.
Avec elle.
Oui, je vois très bien, parce que, en fait, on a l'impression aussi que vous êtes reliés par des histoires peut-être un peu communes finalement.
Oui, sa vision des hommes aussi, elle a voulu montrer, moi j'ai montré en faisant mon premier défilé, j'ai fait l'homme-objet, elle a montré des hommes, même elle a été au-delà, même elle a fait un truc au-delà de moi avec les hommes, ça chose que je ne fais pas, parce que c'est pas tout à fait ma vision à moi. C'est-à-dire qu'elle, elle s'assujettirait plus.
Oui, oui.
Alors c'est-à-dire que, par exemple, elle a pris un de mes seins coniques. Bon, pour elle, évidemment, ça c'est sûr, ça je lui en ai fait, etc., et tout ce que j'avais fait, mais elle a pris un très 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 pointu, très conique et tout, qui était recouvert de velours, et elle les a mis aux garçons, qui se touchaient les seins comme ça. Mais là, on va plus vers le travestissement, en quelque sorte. C'est pas tout à fait mon propos dans les vêtements que j'ai fait quand j'ai fait l'homme-objet. C'était pas tout à fait ça. Mais par contre, je n'ai absolument rien contre cela, ou bien au contraire.
D'ailleurs, parce que quand vous faites des jupes pour hommes, c'est pas vraiment complètement des jupes.
Voilà, c'était un pantalon-jupe, en fin de compte. Mais pas une jupe culotte, mais un pantalon-jupe qui fait plutôt penser à la silhouette des serveurs des 1900.
Moi, j'ai pensé au samouraï aussi. Avec
les... Aussi, oui. Ce côté comme ça qui est un peu un vêtement androgyne, en fin de compte.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez donné corps avant tout le monde à cette théorie du genre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle?
Je ne sais pas si je suis le premier, mais enfin, c'est quelque chose qui a de toute façon toujours existé à travers les siècles et tout. C'est quelque chose qui me touche, oui, du fait de, justement, la particularité et le fait qu'on peut ne pas se sentir bien par rapport aux autres et se sentir autre chose que ce qu'on est censé représenter. Donc je veux dire, par rapport, déjà, si vous voulez, le fait quand j'ai voulu montrer l'homme-objet, eh ben c'était déjà montré que tous les hommes ne sont pas John Wayne avec un revolver à la main, voilà, et que c'était qu'il y en avait d'autres aussi qui pouvaient être sensibles et tout, y avoir une sensibilité particulière et quelquefois se sentir plus près du sexe féminin que les autres, et c'est qu'ils avaient le droit aussi.
C'est votre cas?
Ah non, je crois pas. Je crois que je me sens de sexe masculin, mais avec l'esprit qui justement a réalisé les injustices comment percevoir les sexes et comment les faire réagir les uns et les faire vivre ensemble.
Bon, on va finir sur cette très jolie phrase. Merci Jean-Paul Gaultier de nous avoir reçus. Et on finit demain, 5e épisode, même heure. Même endroit. Bonne soirée à l'écoute des programmes de France Culture.
Bonne soirée à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Leila Djitli avec Jean-Paul Gaultier. À voix nue, réalisation Clémence Grosse, prise de son Mathieu Perrault, Raymond Albouy, documentation Annelise Signoret, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.